My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, et militer avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Aujourd'hui, dans Les Enfants du Nouveau Monde, nous accueillons Eric Desrien, libre conteur. Salut Eric.
Salut.
On va parler aujourd'hui justement de l'intérêt des contes dans l'éducation ou dans l'éveil, hein, pas seulement des enfants, mais aussi des adultes. Comment ça nous fait réfléchir, comment ça nous aide à penser notre vie, le conte. Mais avant ça, peut-être tu peux nous raconter brièvement d'où tu viens, par quelles autres cases t'es passé avant d'arriver sur la case compteur.
Bon, on va faire rapide ça.
Rapidos.
Moi je viens de la rue, en termes de travail. Hein. J'étais jongleur de rue. Mm-hmm. De là, pendant quelques années, donc l'objectif que j'avais chaque journée, c'était que le petit vieux et la petite vieille sourient.
Voilà. C'est un bel objectif.
Sinon je mangeais pas.
Dans un sens, c'est alimentaire.
C'est un super résumé du monde du spectacle, en fait. Hein. Si les gens y viennent, on va bouffer. Si les gens ne viennent pas, on ne va pas bouffer. Ça s'appelle un métier. Et de là, je suis devenu enseignant des arts du cirque.
Enseignant des arts du cirque.
Ouais. Alors, c'est un grand mot. Voilà. On travaillait avec le cirque comme outil pédagogique. Donc, l'objectif, c'était pas cirque, c'est des gens en face et tout ce qui peut se transmettre culturellement par le biais du mouvement et d'une réflexion sur le mouvement.
Vous travailliez à l'époque, parce que j'ai quand même un peu lu ton site et puis je te connais un peu quand même, vous travailliez à cette époque-là avec ce qu'on appelle des jeunes en difficulté ou des publics.
Entre autres.
Difficiles, entre autres.
Entre autres.
Mais pas que.
Entre autres avec des gamins de la protection judiciaire de la jeunesse, entre autres dans des quartiers très 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 chauds, mais aussi dans des écoles lambda à droite, mm-hmm. à gauche, avec un public adulte aussi, de professionnels du milieu artistique. Et c'est là que brusquement, public en difficulté, moi je l'interroge cette notion. C'est que, ouais, quand on est dans un quartier où c'est pas des voitures, c'est des immeubles qui brûlent, on a affaire à un certain public avec ses difficultés. Quand on a affaire à des gamins de Neuilly ou de Versailles, on a affaire à un autre public qui a aussi ses difficultés et voilà, elles sont lourdes. Mmh. Et quand on travaille avec des comédiens du monde du spectacle, on a affaire à encore un autre public et lui aussi il a ses difficultés, hein, c'est pas gagné. Voilà. Donc il n'y a pas de public à difficultés, ça n'existe pas.
Ou du moins, ils sont tous à difficultés.
Voilà, on a tous des difficultés. Je crois que ce qui m'a permis de rencontrer certains jeunes, c'est entre autres ce moment où ils ont compris que si je faisais ce métier-là, c'est parce que j'étais plus un public à difficultés que eux.
Donc le cirque, c'était un prétexte, on va dire, ou un moyen, un média par lequel vous pouviez aussi passer tout un tas de messages et participer à l'éducation de ces jeunes. Le conte aujourd'hui, c'est aussi ça pour toi?
C'est un média aussi, ouais. C'est un média, c'est une vieille maladie, en ce qui me concerne.
Tu veux dire que t'es tombé dans la marmite quand t'étais petit?
J'ai pas choisi d'être conteur. J'ai fini par accepter.
Par un soir d'été esselé, Martin part se promener dans la montagne. Le voilà qui arpente un sentier, dominant une falaise d'une centaine de mètres de profondeur. Le spectacle est grandiose. Au loin, le soleil couchant éclabousse le ciel de ses mille couleurs, tandis que derrière lui, dans des arbres réunis, les oiseaux font résonner la symphonie des sous-bois et que les petites fleurs de la prairie dispensent leur parfum généreux. 100 mètres plus bas, au pied de la falaise, la rivière coule en glougloutant goulûment entre les rochers. Les sens en éveil, Martin vit une véritable extase, une véritable communion avec Dame Nature quand soudain, son pied se pose sur une pierre mal achaussée. Le caillou cède sous le poids de notre homme, l'entraînant dans sa chute. Le voilà qui tombe de 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Et in extremis parvient à se rattraper à un frêle arbuste qui poussait là, on ne sait comment ni pourquoi. Si ce n'est que sans arbuste, pas d'histoire. Hein, Martin regarde sous ses pieds. 50 mètres de vide, la rivière et les rochers. Au-dessus de lui, 50 mètres de falaise infranchissable. C'est à cet instant précis qu'alors que cela faisait 3 années que monsieur curé ne l'avait vu ni à messe ni à confesse, Martin se sent submergé par un élan de foi indescriptible. Il se plante le nez au ciel et s'écrie « Il y a quelqu'un à l'aide, il y a quelqu'un à l'aide, il y a quelqu'un !» Et là, miracle, la nuée s'entr'ouvre. Un rayon de lumière vient se poser juste contre notre homme, tandis que résonne une divine voix. « Oui, mon fils, il y a quelqu'un. Le ciel n'est pas vide, qu'est-ce que tu crois ?» Lâche donc ce frêle arbuste, et mes anges viendront te déposer délicatement au sol.
Lâcher l'arbuste?
Y a quelqu'un d'autre?
Nous venons d'écouter un des petits contes facétieux d'Éric Desrien. C'était un extrait de l'album Martin qui cause sur Radio 16. Reprenons le cours de notre émission Les Enfants du Nouveau Monde, consacrée aujourd'hui à l'intérêt des contes dans l'apprentissage. Le conteur Éric Desrien est notre invité.
Le conte, c'est la transmission. Mais comme le roman, comme le journalisme, comme le travail d'un instit, comme le cinéma, comme la bande dessinée, c'est la transmission. Mmh. Donc s'il y a transmission, il y a partage. Partage de pensées, partage de questions, donc forcément. En quoi le conte est éducatif? C'est un peu se demander en quoi l'eau est humide. Ouais, l'éducation dans le conte ou avec le conte, c'est un peu se poser la question d'humidité de l'eau.
Oui, après, on peut dire oh, bah, c'est pour se divertir, c'est pour passer un bon moment, on lit des histoires, c'est pas forcément pour apprendre quelque chose. Moi, par exemple, on m'a beaucoup lu des contes dans mon enfance. Je parle là des contes 18e, 19e siècle, les classiques, les petits poussets, Blanche-Neige, Hansel et Gretel, Cendrillon, enfin bref, tous ceux qui ont bercé pour beaucoup nos enfances. Et franchement, je vois pas en quoi ils ont participé à mon éducation. Si, ils m'ont mis des idées dans la tête, mais justement, je vois, tu vois, l'idée du prince charmant, l'idée de choses qui après sont même difficiles des fois à se débarrasser, quoi. Pour certaines nanas qui grandissent en quête de ce prince charmant, du coup, vu que depuis l'enfance, on nous a bercé avec ça. Donc, effectivement, je vois que le conte m'a façonné quelque part, mais pas forcément dans le bon sens. Donc, pas forcément dans le bon sens. Attention au message qu'il véhicule. Si on veut utiliser le conte dans l'éducation, quel est le but? Quels sont les messages qu'on a envie de faire passer avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore un intérêt de lire des contes de princesses et de princes charmants et de chevaliers aux enfants, par exemple?
Alors, d'abord, tu parles de contes dont on t'a bercé dans ton enfance. Mm-hmm. Dans quelle version? Vraiment. Là, je trouve qu'il y a un truc qui est super intéressant. Parce que si tu regardes tes contes traditionnels populaires qui se racontent depuis 5-6 siècles, et sa version Walt Disney, en effet, t'as un fossé qui est énorme. Mmh. Traditionnellement, des contes qui finissent par ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, c'est extrêmement rare. Ça, c'est l'image qu'on a, qui vient entre autres de Disney et compagnie, qui a créé l'image des contes c'est fait pour les enfants.
Ce qui n'était pas le cas à la base.
Ce qui n'est pas le cas du tout, ni à la base ni à l'arrivée, des contes c'est fait pour les gens. Enfants compris, hein, mais c'est pas destiné aux enfants. Mmh. Ça n'a jamais été destiné particulièrement aux enfants. Mmh. Les enfants peuvent les entendre et pas forcément tous. Mmh. Donc ça, on a deux trucs qui sont différents. On a une culture populaire, une littérature du peuple. C'est une transmission du peuple, des histoires qui se racontent de personne en personne, que ce soit de la grand-mère autour de la cheminée, comme on a l'image traditionnelle, au creux du village, grand-mère qui sait ni lire ni écrire, mais qui transmet tout un savoir, et un savoir des petites gens. Et on a la fabrique d'une industrie du spectacle qui, en effet, nous, nos générations, nous a beaucoup façonnés. Alors, je ne sais pas pour la plupart des gens, mais moi, la plupart des histoires dont j'ai été bercé gamin, il y a plus de dessins animés de Walt Disney que d'histoires racontées par ma grand-mère. Et là, on est dans deux mondes différents. Et là, juste, je pose une question. Enfin, j'ai envie de commencer par soulever une question. C'est ces histoires qui traversent ces siècles, racontées de gens en gens, au creux du village, contrôlées par personne, parce que une culture populaire, elle n'est pas contrôlable. Ça se transmet. Ça cherche quoi? Ça cherche à faire quoi? Bon, moi, je crois que ça cherche à faire du bien aux gens. Je crois que les gens, ils sont pas cons. Et que s'ils partagent des choses, c'est avant tout pour se faire du bien.
Se donner des après, petits tuyaux, se donner voilà, des se donner astuces des tuyaux, de vie.
Se donner plein de choses. Mm-hmm. On va pouvoir y venir après. Par contre, dans quoi on a bercé, qui a créé l'image qu'on a encore aujourd'hui du conte, qui finit avec la princesse charmante, ce prince charmant, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, comme si c'était la fin des problèmes. Alors que c'est le début, en général, des galères. Non mais, on a la fabrication d'une industrie du spectacle qui cherche quoi? Quel est son objectif? Voilà, t'as parlé de divertissement. Mm-hmm. Faire se divertir des gens. Divertir, ça vient de divertere. En latin, ça veut dire sortir de. Sortir de ma vie. Oublier ma vie et mes soucis. Bon, en tant que conteur, le divertissement, mais je vomis dessus. Ça ne m'intéresse pas de sortir des gens, de séparer des gens de leur vie.
Bien au contraire.
C'est la vie qui m'intéresse. Moi, je crois que le conte n'est pas du tout un truc de divertissement, mais d'avertissement.
Ah, intéressant.
Alors, pourquoi pas sortir, en effet, le temps d'un rêve? Mais dans ce cas-là, l'important, c'est comment je reviens. C'est ça qui compte. On parle de nourriture culturelle. Un repas, il peut être super bon. S'il m'apporte ni calories, ni glucides, ni lipides,
ni vitamines,
de quoi me nourrir, ben ça c'est du vent, ça sert à rien. Je prends pas le temps de manger hein, dans ce cas-là. J'ai autre chose à faire. Non, un repas, ça me nourrit, ça me constitue. Une nourriture culturelle, si c'est que oublier ma vie, le temps d'un rêve, le temps d'un divertissement, à quoi ça sert? Non, c'est comment je reviens dans ma vie. Est-ce que j'y reviens avec d'autres bagages, d'autres outils, une clé à molette du cerveau pour pouvoir agir différemment? En quoi ça me nourrit vraiment?
Un nouveau regard voilà. Sur les choses.
Et je crois que rien n'est gratuit. Je crois vraiment que rien n'est gratuit. Et que quand on nous présente du divertissement qui aurait pour juste pour unique objectif donc de nous distraire, de nous faire sortir de ce qu'on vit, ok, et dans ce cas-là, ça produit quoi, ça? Ça, je trouve ça intéressant. Sinon, ça, juste ce divertissement ne m'intéresserait pas. Mais le problème, c'est que rien n'est gratuit, et ça produit des choses aussi. Donc, des gens qui passent une semaine dans leur chaîne à bosser pour un patron, aujourd'hui, en perdant la sécu, en perdant la retraite, en perdant le droit de grève, etc., quand même... Tu leur mets
quand
un
tu
film.
Vis dans leur chaîne, dans leur boulot, quoi.
Dans leur
quel
boulot.
Quel que soit leur boulot.
Dans leur ouais. Asservissement.
Mm-hmm. Vous avez compris? C'est un synonyme. Vous avez capté. Hein,
Bah ouais. Le samedi soir, ils vont se retrouver à regarder tel film américain. Par exemple, Robin des Bois avec Kevin Costner. Super bon film. Où on va voir le gentil héros qui va défendre le peuple qui est opprimé. Et à la fin... Tout le monde est libéré. En fait, il se passe quoi à ce moment-là? C'est le besoin de libération des gens. On assouvit entre 20h30 et 22h le samedi soir. Par procuration, en m'identifiant à ce personnage, ben, j'assouvis mon besoin de libération, ce qui me permet de retourner dans mes chaînes. Ce qui me permet de retourner au boulot pour un patron, ce qui me permet...
Et ce qui nous fait voilà. Devenir complètement addicts donc du divertissement, puisqu'on a besoin de ça pour
se parce que c'est la soupape qui me permet de respirer, qui me permet de donner l'impression de respirer. Si on enlève
ça,
le divertissement, arrive un moment où les gens, ils explosent. Ils peuvent plus.
Et ils vont se rendre compte de leur asservissement et de l'insupportable de leur vie.
Ils vont exploser.
Je reviens sur ce petit paradoxe parce que ça me touche particulièrement. C'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que, tu disais tout à l'heure, le conte, ça sert à se faire du bien, ça sert à se transmettre des petits tuyaux et tout ça. On pourrait avoir la vague impression au premier abord que le happy end, ça nous fait du bien. Enfin, quelque chose qui se termine bien et tout ça. Or, en fait, avec le happy end, ça nous... Donc le happy end, c'est la fin, tout va bien, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants, la fin joyeuse, la fin heureuse. En fait, la moitié du message ne passe pas du coup. Enfin, si on prend l'exemple des contes, là j'avais un exemple qui me venait en tête, c'est le conte de la petite sirène, qui a donc été repris par Walt Disney, la plupart des gens savent de quoi on parle. À la fin, la petite sirène, elle se marie avec le prince, etc. Dans le vrai conte, la petite sirène donne sa vie pour sauver le prince, elle meurt. Et ça, évidemment, Walt Disney, ils ont éludé cette fin. Et or, sans cette fin-là, on peut pas comprendre la beauté de ce conte.
On comprend autre chose.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, mobila. Que tu mamá está en el campo, mobila. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer ricas frutas para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Come la patita, chica puma, chica puma, a puma, chica puma, a puma, chica pa.
Je racontais à l'époque un conte amérindien qui finit par un oiseau rencontre une souris, ça crée la naissance des chauves-souris. Donc, sur cette histoire-là, qui est un conte traditionnel, Sioux, à la fin, il se marie et ça fait des enfants, hein, en effet. Ça arrive aussi dans la vie parfois. J'avais une amie dans la salle qui est venue m'engueuler après le spectacle en me disant c'est pas bien ce que tu fais parce que moi c'est ce qu'on m'a raconté quand j'étais petite et j'y ai cru. Ah, elle y a cru. Ah, ils se marièrent, ils auront beaucoup d'enfants et que ce sera la fin des problèmes. T'as trouvé ton prince charmant, tout va bien. Sauf que là elle en était au troisième enfant de trois pères différents, donc l'image du prince charmant, elle s'était cassée la gueule, mais fort quoi. Et elle n'avait pas été avertie, justement, mais bercé d'illusions. Donc si ces métiers de transmission sont là pour bercer les gens d'illusions, pour les empêcher de voir la vie telle qu'elle est, et au lieu de les armer, au lieu de nous outiller pour qu'on puisse se débrouiller dans cette vie qui n'est pas simple, quoi, si ça fait contraire... Mais moi, je suis pour faire sauter tous les théâtres, toutes ces chaînes de télévision, les radios. La fabrique du divertissement, c'est une horreur. À mon goût.
Alors, justement...
On va fabriquer de l'avertissement.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme conte qui sont là, justement, pour nous avertir? Je sais que toi, tu travailles pas mal sur les mythes antiques. On a du mal à imaginer en quoi les mythes antiques ils vont nous avertir ou nous donner des tuyaux pour vivre notre vie quotidienne quand on se rappelle ce dont traitent les mythes antiques. C'est des combats titanesques entre des cyclopes et des gorgones et des choses comme ça. On se dit, wow, on est loin de notre vie quotidienne. En quoi ça va nous avertir tout ça et ça va nous filer des petits tuyaux pour mieux vivre notre vie?
Ah, moi, je te propose d'aller peut-être moins vite.
D'accord.
Parce que avant d'arriver aux mythes, au travail des mythes, où il y a quelque chose de très spécial, il y a déjà un truc de base. C'est l'enfant à qui on raconte une histoire le soir avant de s'endormir. Il prend du plaisir à cette histoire-là. Ça va développer des images en lui. Ça va transmettre du vocabulaire. Et surtout du plaisir. Le plaisir de l'histoire. Quand il va se mettre à apprendre à lire et à écrire, il y a de fortes chances pour qu'il comprenne assez vite que, ah, mais si je sais lire, ce plaisir de l'histoire, je peux me l'offrir quand je veux. Or, on n'apprend jamais aussi bien que quand c'est par plaisir. À partir du moment où on apprend par le jeu, ou par le plaisir, par la passion, les deux hémisphères cérébraux sont reliés, travaillent de concert. Dès qu'il y a des notions d'effort, de tension, on a tendance à avoir une rupture de la discussion entre les deux hémisphères cérébraux, on se retrouve à avoir un demi-cerveau, c'est moins pratique hein, pour apprendre. C'est quitte. Donc déjà, l'histoire lue au gamin, l'histoire racontée au gamin avant qu'il s'endorme, va l'inscrire dans ce plaisir de l'histoire qui se transformera en plaisir du roman, pourquoi pas en plaisir de la philosophie, ou voilà, en plaisir d'avaler des mots. Donc en termes d'apprentissage de la lecture, il n'y a pas photo, ça aide. En plus, cette nourriture d'histoire va donner déjà une carte culturelle au gamin. Il aura entendu parler de ceci, de cela, qu'il va retrouver au long de son chemin, au long de son apprentissage. Donc ça, il y a à nouveau quelque chose qui est offert, qui est donné. Quoi. On ne peut que aider. Après, avec les mythes, on a un travail qui est particulier, qui va aller beaucoup plus loin, en fait. Parce qu'on se rend compte que des enfants sont en très grande situation de rupture d'apprentissage. Et quand tu vois ce que vivent certains gamins, tu comprends qu'ils peuvent être très vite bordés d'angoisse assez énorme. Et du coup, en fait, ça se traduit chez ces mômes par provocation, somnolence. De toute façon, j'y arriverai jamais. Toutes ces réactions qui sont super classiques. En fait, il s'avère que ces enfants... Bon, moi, je découvre ce boulot au moment où je commençais à bosser avec les mythes. Là, je bossais avec des enfants de la protection judiciaire de la jeunesse. On a un phénomène dans les mythes, c'est qu'on a, entre autres, dans ce répertoire, des mises en scène de ce qui angoisse le cœur humain. Or, si j'ai des angoisses archaïques, non nommées, non visualisées, non connues, c'est vraiment profond. Si je peux mettre une image dessus, c'est que je peux commencer à le voir, je peux commencer à sortir de moi, et je vais pouvoir commencer à composer avec, à l'apprivoiser.
À en parler.
Voilà, il va pouvoir se passer quelque chose. D'où le fait de raconter Chronos qui mange ses enfants, le fait de raconter la guerre des titans entre les titans et les dieux olympiens, ou la naissance de Gaïa et d'Uranos, ces vieilles images mythologiques. Ben, ça va permettre aux gamins de poser des images sur ce qui les angoisse, donc de l'apprivoiser, de revenir au fait de penser et d'apprendre. En passant une année à leur raconter, par exemple, les mythes grecs, c'est que un exemple.
D'accord.
Ça peut être du Jules Verne, ça peut être des mythes bibliques, ça peut être des mythes celtes, mais du mythe. Et ben, on les ramène à l'apprentissage de la lecture et d'écriture en l'espace d'une année. Et ça me semble aujourd'hui hyper important. Alors ça, c'est un des aspects de ce qu'on a comme comme impact pédagogique grâce au travail des mythes auprès des jeunes. C'est le côté psychopédagogique. En plus de ça, les mythes grecs, c'est une des fondations de nos sociétés. On a des références à la Grèce pré-archaïque dans tout.
Ouais.
De la même manière qu'on a les mythes bibliques et les mythes celtes. En France, on a un peu ces trois socles mythologiques qui sont entremêlés. Donc, un gamin qui découvre Zeus, Athéna, la Gorgone, Méduse, en se marrant, toujours référence au plaisir, il aura, après, quand il va être dans les mathématiques, dans tout le vocabulaire mathématique, physique, dans la littérature, il aura constamment des références à du plaisir. Donc, ce sera autant de petits plaisirs qui reviennent. Là, on gagne quelque chose. En plus, les mythes préarchaïques, il y a un truc important, c'est que les Grecs racontaient ces histoires-là à une époque où pour eux, ce n'était pas des histoires. On était dans le domaine du mythos. C'est Zeus, il est vraiment au sommet de l'Olympe. C'est pas une blague. Et après va arriver la raison, avec Aristote et compagnie. Donc, un changement dans la façon de penser. On quitte le mythos, on rentre dans le logos. On quitte la pensée magique, mythique, on rentre dans la pensée raisonnée. Ça, c'est notre façon de penser à nous. Mine de rien, qu'un gamin découvre, jeune, une façon de penser qui a eu avant la nôtre, sans avoir même besoin de dire ou d'en parler, inconsciemment, il va forcément comprendre que notre pensée a eu un début. vu qu'il y avait une autre pensée avant. Donc si notre pensée a eu un début, il y a des chances pour qu'elle ait une fin. Ce n'est donc pas la pensée, mais une pensée. Brusquement, si ma façon de penser n'est pas la pensée, bah, la façon de penser de mon voisin, c'est peut-être plus une erreur, mais une autre façon de penser. Mm-hmm. Donc ça nous permet de penser notre pensée. Mm-hmm. Et je trouve aujourd'hui que c'est particulièrement important, particulièrement d'actualité. Surtout avec cette façon dont une pensée hégémonique qui s'installe sur la surface de la planète, qui peut se résumer en un seul mot. Consomme. Mm-hmm. Hein? Bon. Donc il y a ça qui se passe. Aussi, dans un partage des mythes, c'est fait d'inscrire notre pensée dans une histoire de la pensée.
Ah, c'est très intéressant.
Après, en tant que transmission d'outils, de qu'est-ce qu'on partage, de qu'est-ce qu'on peut donner aux gamins ou aux adultes, il y a encore autre chose, c'est dans ces mythes, les héros vont servir de autant de références auxquelles je m'identifie. Donc là, il peut y avoir une transmission de valeurs ou pas. Moi, je ne suis pas là pour donner des messages. Je n'ai pas de leçon à donner. Par contre, c'est clair que personnellement, quand j'ai plongé dans l'Odyssée d'Ulysse et que j'ai commencé à raconter l'Odyssée d'Ulysse, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, mais je me suis rendu compte plus tard que, tiens, c'est marrant. Je me suis passionné pour Ulysse, j'ai plongé dans cette histoire-là, j'ai commencé à la raconter pile dans la période de ma vie où il ne fallait pas que j'oublie de garder cap lointain, que j'accepte de traverser les épreuves, voilà, en me disant que peut-être je finirais par atteindre Ithaque, j'en étais pas sûr. Donc, il y a quelque chose qui m'a forgé, le rapport à la mémoire, à la fidélité dans Ulysse, sont des choses qui sont phénoménales. Ulysse renonce à l'immortalité et à l'éternelle jeunesse auprès d'une déesse, Calypso, parce qu'il doit retrouver Pénélope. Calypso, il lui dit, mais qu'est-ce qu'elle a, ta Pénélope, elle est plus bête que moi. Non, mais c'est pas possible, t'es une déesse, on peut pas faire plus beau qu'une déesse. Mais Pénélope, c'est Pénélope. Jamais il oublie les siens, qu'il est fils de, époux de, père de, qu'il a une terre. Il n'oublie pas les siens. Mm-hmm. Donc il y a cette notion de mémoire et de fidélité de la mémoire. Donc mm-hmm. c'est par exemple une valeur que retransmet l'histoire.
C'est bon.
On s'y identifie ou pas, on en a besoin surtout ou pas. Si j'en ai pas besoin, tant mieux. Si j'en ai besoin, bah, ça peut me donner des grilles pour organiser mon vécu, en fait, dans une narration. Mm-hmm. Parce qu'on est toujours en train de se raconter.
C'est ça, toutes nos vies sont faites d'histoires et on est ce qu'on se raconte de soi-même, en fait.
Oh, c'est pire que ça.
C'est pire que ça.
Ouais. Alors, t'as des psys américains dont la phrase d'introduction pour présenter leur travail, c'est les scientifiques nous disent qu'on est composé d'atomes, mais les Sioux Dakota savent qu'on est composé d'histoires. Et tout leur travail repose sur ce principe. Et y a des gens dans la région qui bossent aussi beaucoup comme ça, qui font du très bon boulot, sur la personne en face de moi, elle est dans un mal-être parce qu'elle n'arrive pas à se raconter son propre vécu de façon constructive.
Positive, de façon
juste
positive.
Trouver des moyens d'une autre narration.
C'est magnifique,
qui va
ça.
Ouvrir des portes de sortie.
Mmh,
donc, oui, on est composé d'histoires, mais c'est pire que ça, parce qu'en fait, ces scientifiques américains, quand ils disent ces psys américains, quand ils disent les scientifiques nous disent qu'on est composé d'atomes. Mais non, plus aujourd'hui. Oui, on est composé d'atomes,
oui,
mais pas que.
Mais pas que.
Les scientifiques aujourd'hui nous disent qu'on est composé d'histoires. C'est pas compliqué, t'as la physique quantique, qui montre que chaque chose est matière et vibration, d'accord. Mais ils ont vu en faisant des expériences avec des canons à électrons que je regarde des choses a un impact sur les choses. Or, comment je regarde des choses en fonction de comment je me les raconte.
Tout à fait.
Donc, comment je raconte ce monde a un impact sur le monde.
J'ai envie de prendre un exemple qui m'est venu ce matin dans ma douche. Des fois, on a des inspirations comme ça. C'est la personne qui se fait licencier et qui a plusieurs possibilités sur comment elle va se raconter cette histoire, comment elle va le prendre, en gros. Alors, tu l'as bien pris ou tu l'as mal pris ? Admettons, une personne qui se fait licencier dans la cinquantaine, ben là, deux options. Soit je le prends bien et je me dis, bon, bah, Voilà, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre devant moi. Je vais avoir l'opportunité de me consacrer à des choses qui me font enfin plaisir. Peut-être que je retrouverai pas de boulot, mais après tout, retraite anticipée ou chômage, ça me permettra bien de vivre jusqu'à la retraite. Et puis j'ai plein de temps libre, c'est magnifique, enfin, etc. Il y a cette façon-là, ou alors il y a la façon de se dire, mon Dieu, je perds mon boulot à 50 ans, j'en retrouverai jamais. C'est par les temps qui courent. Et puis de se victimiser, d'en avoir peur, de devenir dépressif, insomniaque, j'en sais rien, de passer sa vie sur les annonces du Pôle emploi tout en se faisant chaque jour plus de billes. Donc voilà, c'est juste un petit exemple pour dire, voilà, selon la façon dont on regarde un même événement, il va se développer une énergie totalement différente dans la vie et des opportunités totalement différentes de celui qui va finir chez le psy complètement dépressif ou de celui qui va se lancer dans des nouvelles activités et découvrir enfin le bonheur après 40 ans de dur labeur.
comment on se raconte les choses? Ça va nous faire agir, ça va nous faire bouger différemment. D'où, à mon goût, hein, l'importance de partager des façons de se raconter le monde et la vie qui puissent nous aider. Juste qui puissent nous aider. Tu l'as dit, hein, le gars qui se retrouve au chômage, est-ce qu'il va être pris par la peur? Ben, on se rend compte qu'une énorme partie des médias en Occident aujourd'hui ont pour tâche unique de...
Nous faire peur.
Nous faire peur. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui est embauché qui se retrouve à tes côtés. Ah, ce sera peut-être un concurrent sur le marché du travail. Si tu as peur du chômage, bah, brusquement, tu ne vas pas envisager cette personne comme un collègue, mais comme un concurrent. Mmh. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde de la concurrence de partout, quoi, qui se développe de partout. C'est un super travail des médias, ça.
En guise d'illustration sonore de tout ça, je vous propose une petite histoire en musique. C'est le Québécois Alexandre Poulain qui, du bout de sa plume, raconte l'histoire d'un petit bonhomme. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le talent de conteur de ce monsieur. Personnellement, sa chanson me tire chaque fois des larmes.
J'ai grandi pas loin d'ici, dans le troisième arrondissement, où les rêves se font endormis, une fois debout, on n'a plus le temps. Mon père gagnait sa vie à l'usine de Camaro, pareil comme son père avant lui, même qui posait le même morceau. Ma mère faisait des ménages, moi je rêvais d'être écrivain, et puis de pelleter des nuages pour que le soleil brille enfin. Mais j'étais si mauvais à l'école que je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas de ceux qu'on traitait de bol, même quand je donnais tout ce que j'avais. Mais y'avait Monsieur Desilets, un prof fin et disponible, qui m'avait pris sous son aile et croyait en mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer, je collerais le test du ministère, lundi j'enverrais mon CV à l'usine de mon père. Mais la veille de l'examen final, le bon monsieur Desilets m'a tendu un crayon banal roulé dans un velours épais. Et puis, tout en fixant ma main, il a dit: ce crayon-là, il est magique, prends-le demain pour l'examen. Et c'est les réponses et les répliques. J'suis pas du genre à croire tout ce qu'on me dit, mais mon prof inspirait confiance. Je voulais croire un peu aussi que j'avais peut-être encore une chance. D'ailleurs, à la seconde où je l'ai pris, j'ai senti comme un changement. Je vous jure que je vous compte pas de madri, non. Le crayon était vivant, et contre toutes mes espérances, il écrivait pratiquement tout seul. Sans blague, ça avait presque pas de sens de le voir danser sur les feuilles. J'ai donc passé mon examen comme un petit test de routine, avec quelque chose comme 80, presque aussi haut que mon estime. J'aurais dû rendre le crayon, j'étais quand même pas un voleur. Mais pour une fois que je me trouvais bon, puis que l'avenir était en couleur, j'ai mis le stylo dans ma poche, puis je suis parti en courant. La conscience aussi lourde qu'une roche qu'on brise pour en faire du ciment. Et au fil des années, je suis devenu l'auteur que j'espérais. J'ai même vendu dans le monde entier tous mes bouquins et mes essais, mais avec le sentiment étrange qu'au fond, j'avais rien accompli. Le crayon vainquait les pages blanches, moi, je n'étais que son outil. Je me suis mis à boire plus qu'il ne faut pour oublier que je n'étais rien. Que je roulais dans une Camaro sur laquelle mon père s'usait les mains. En plus, j'avais toujours peur qu'on me vole mon précieux crayon ou que me dénonce mon professeur. Le sang serait vraiment fini pour de bon. Ils m'ont retrouvé hier soir à une séance de dédicace. Tout autour de ses yeux noirs, le temps avait laissé sa trace. Je lui devais mon succès et des excuses comme de raison. J'ai dit, monsieur Desilets, vous venez chercher votre crayon. Il m'a souri tristement en disant, t'as toujours pas compris. Il est dans ta tête ton grand talent. Le stylo venait de chez Uniprix. Laisse-moi te regarder maintenant. Je suis si fier de toi. Y'a pas un seul de tes romans que j'ai pas lu au moins trois fois. Moi je me suis levé d'un coup. J'en croyais juste pas mes oreilles. J'ai pris mon vieux prof par le cou. La vérité me donnait des ailes. Tellement qu'en arrivant chez moi, j'ai jeté le stylo par la fenêtre. La lumière brillait sur les toits et les mots dansaient dans ma tête. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, non. J'ai écrit sans m'arrêter le nombre de feuilles que j'ai noircies. Je pourrais même pas les compter. Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui a tellement pas confiance en lui, qui trouve plus facile de croire qu'un crayon peut faire la magie. Dans le troisième arrondissement, les rêves volent pas très haut. On les laisse traîner sur un banc devant l'usine de Camaro. Et comme on entend la machinerie crier jusque dans le cours d'école, on comprend vite dès qu'on est petit qu'il y a juste les oiseaux qui s'envolent.
C'était Alexandre Poulain, la chanson s'appelle L'écrivain. Vous êtes sur Radio 16 99.2 à l'écoute de l'émission Les enfants du Nouveau Monde, aujourd'hui consacrée à l'intérêt des contes dans l'éducation. Et pour cela, nous discutons avec Éric Desrien, conteur bien évidemment.
Et j'ai repéré quelque chose sur ton site internet, que les mythes ont une faculté à fasciner. Donc, comme tu disais, ils mettent en scène des angoisses archaïques, des peurs archaïques, ce qui fait souffrir ou ce qui fait du bien au cœur humain. Donc là, on parle vraiment de quelque chose qui touche tout le monde et en images, etc. D'où la puissance de fascination des mythes. Et il a été remarqué que ça augmente le temps d'écoute des enfants. C'est-à-dire que des enfants qui habituellement, à l'école, on doit changer d'activité toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, parce qu'on a remarqué que leur concentration dépassait pas ce temps-là. Sur les mythes, on explose les records.
Ça fait vraiment du bien. Du coup, ça m'est arrivé, par exemple, avec Merlin, le mythe de Merlin, qui est du mythe celtique, derrière le vernis des littératures médiévales, mais on est vraiment dans le répertoire du mythe celte. Des gamins de 4 ans restent 1h15 à l'écouter, sans aucun souci. Et 1 heure de raconter mythologique à partir de l'école primaire, sans aucun souci. Et surtout, un truc que je trouve intéressant, c'est sans à aucun moment travestir la pensée d'Homère, d'Hésiode, cette pensée de la Grèce préarchaïque, en prenant le temps même d'interroger qu'est-ce qui se cache comme sens derrière ces histoires-là, c'est-à-dire en faisant aussi un peu d'exégèse, donc en mettant les gamins devant des notions qui ne sont pas simples, mais ils prennent, ils comprennent, ils s'approprient, ils se mettent, ils le pensent et ils le retiennent.
Pas prendre nos vraiment... enfants pour les idiots, hein. Walt Disney, vraiment. On peut leur servir autre chose, je pense.
Un cerveau qui grandit, il a besoin de grains à moudre. Donc, faut pas hésiter. Et en effet, moi, cette année, j'ai des gamins de CM1, CM2 qui vont mettre en scène Antigone de Sophocle. On va mettre en scène Antigone de Sophocle avec des gamins de CM1, CM2, et ils comprennent l'histoire, ils comprennent ce qui s'y joue.
Et sans doute que ça les marquera à vie.
Voilà, il suffit de raconter simplement. Mmh. Alors, raconter simplement, ça ne veut pas dire simplifier ce qu'on raconte. Mais de raconter avec des mots simples, des mots de tous les jours, c'est là que on a une partie de la population en France qu'on appelle des intellectuels, qu'on voit dans les médias, à la télé, qui édite des bouquins.
Dont le mot est totalement le contraire, non ? Faire du compliqué avec du simple.
Ouais, c'est ça. C'est qui paraît de façon très compliquée. C'est important qu'il paraît de façon très compliquée. C'est important. C'est important parce que chez beaucoup de ces intellectuels-là, si on prend le temps de traduire en mots simples ce qu'ils disent de façon très compliquée, on se rend compte que 9 fois sur 10, c'est soit d'une banalité consternante, soit d'une affligeante bêtise. Hein, et si on traduit en mots simples, ben, brusquement, on comprend ce qu'ils disent. Et on se dit, non, mais c'est pas possible, il gagne sa vie avec ça, lui. Et c'est d'ailleurs un des plus grands intellectuels de la planète, Noam Chomsky, qui est un linguiste qui a révolutionné la linguistique, et que j'aime beaucoup parce que c'est le premier qui dit ça. Je suis pas intellectuel parce que j'ai plus de choses à dire ou des choses plus intelligentes à dire que mon voisin boulanger ou mon voisin de maçon. Non, c'est juste que j'ai les moyens de les dire. Donc des copains à la télé, dans l'édition et du vocabulaire. Donc lui, il le sait, il s'en surveille et il prend garde à parler simplement aux gens.
Noam Chomsky, là, tu parles.
Voilà. Mmh,
d'accord.
Il fait un travail, à mon goût, intelligent, mmh. qui est de partager sa voix, mmh. et pas simplement de s'ériger en cette caste autoproclamée de gens qui possèdent le savoir, mmh. et qui vont devoir utiliser un vocabulaire très compliqué pour pas qu'on se rende compte qu'ils disent des absurdités. Quoi. Mmh. Et ça marche, hein, ils ont un succès fou. Mmh,
tout à fait. Snobisme. Je me pose la question de la différence essentielle qu'il y a entre le mythe et le conte. Tu nous as dit que le mythe, ça, c'était différent du conte. Quelle est cette différence essentielle ?
Alors, tu as différents types de contes. Je trouve important de dissocier. On a tout ce qui est les contes merveilleux. Dans les contes merveilleux, on aura les traditionnels, Cendrillon, Belle au bois dormant et autres. On a les contes facétieux, contes comiques, contes courts, comiques, contes de sagesse et contes facétieux.
Ça, tu les aimes particulièrement, ceux-là.
Ça va un peu ensemble. Et en fait, ces contes, ces différents types de contes, il faut prendre une image, je crois. C'est, t'imagines une forêt. La forêt, c'est des contes. Une forêt d'histoire. Pour que cette forêt puisse pousser, il faut qu'il y ait une terre en dessous. Et le mythe, c'est la terre sur laquelle pourra pousser une forêt de contes. C'est-à-dire que les mythes vont raconter comment la terre est venue. Pourquoi les hommes sont là. Le mythe répond aux existences, aux questions existentielles de base, quoi.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi il y a une terre? Pourquoi il y a le soleil dans le ciel? Pourquoi il y a des hommes et des femmes sur terre? C'est vrai, c'est pas toujours super pratique. Pourquoi on est, pourquoi on meurt? Le mythe répond à ça.
D'accord.
Raconte ça. Et le mythe raconte ça dans chaque culture au premier degré. Donc les Grecs préarchaïques, quand ils disent que Zeus est au sommet d'Olympe, Zeus est vraiment au sommet d'Olympe. C'est pas une blague, mm-hmm. c'est pas une histoire.
Quand il raconte que Gaïa s'est unie avec Uranos pour créer la vie sur Terre, Gaïa c'est la Terre, Uranos c'est le ciel, et c'est la réunion du ciel et de la Terre qui crée la vie.
Ça.
C'est très beau d'ailleurs, parce qu'on pourrait presque le vérifier à un niveau physique. c'est magnifique.
Ça, on en vient dans 5 minutes à ça, à vérifier d'un niveau physique. Mais les Grecs, voilà, ils y croient dur comme fer. C'est le mythe.
C'est une façon de raconter notre origine.
C'est comme ça qu'on se raconte. Mm-hmm. Toute société humaine est mythologique. Mm-hmm. Toute société humaine est basée sur des histoires. Je reprends l'exemple des Grecs. Zeus est vraiment au sommet de l'Olympe. Or, Zeus est nommé le Xénios. Celui qui vient frapper à ta porte pour demander l'hospitalité. Qui te supplie de lui offrir l'hospitalité. Bon, alors, il y a un truc qui est super logique. Quand le mec qui demande l'hospitalité, il peut m'envoyer un éclair en pleine figure, donc 20 000 mégavolts, je crois, un éclair.
C'est Zeus.
Brusquement, ma porte est s'ouvre, facile. L'hospitalité était la loi la plus sacrée du grec préarchaïque. La loi la plus sacrée. Voilà, c'est une histoire qui va créer comment ils vivent.
J'en profite pour faire une petite parenthèse étymologique parce que Xenios, c'est l'origine, ça veut dire l'étranger, c'est bien ça, Eric? Et du coup, c'est ce qui a donné xénophobes, notamment ceux qui ont peur de l'étranger. Et donc là, dans le mythe grec, Xénos, l'étranger, c'est aussi le dieu suprême.
C'est Zeus.
C'est magnifique. Donc le dieu suprême, c'est aussi l'étranger, c'est celui qui m'est le plus étranger. Donc j'ai intérêt à accepter l'inconnu et l'étranger c'est parce que là-dedans, il y a du divin.
C'est celui à qui j'ouvre la porte.
Mm-hmm. Très beau.
En gros, moi, c'est une petite question qui me fait doucement rigoler. C'est... Que pourraient penser les Grecs pré-archaïques ? C'est-à-dire les Grecs qui bientôt vont inventer la philosophie, la raison, hein, la démocratie. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient penser de la France des sans-papiers ? Eh bien, ils ne pourraient pas voir un peuple d'êtres humains. Un Grec de l'époque d'Homère ne pourrait voir en nous qu'un peuple de cyclopes, de monstres.
Oui. Ouais. Et en même temps,
là où ne règne pas d'hospitalité, on n'est pas sur la terre des êtres humains.
Si je peux me permettre, nous, quand on sait aussi qu'à leur époque, il y avait de l'esclavage, que les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyens à part entière, on a aussi une vision qui dit, ben, dis donc, quel barbare.
Enfin, bon, il n'y avait pas de justification raisonnée à l'esclavage. Ça, c'est venu avec Aristote.
Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo negrito. Duerme, duerme, mobila. Que tu mamá está en el campo mobila. Trabajando, sí, trabajando. Duramente trabajando, sí, trabajando, y no le pagan. Trabajando, sí, trabajando, y pa' de luto. Trabajando, sí, trabajando, y pa' tosiendo. Trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito.
Mais sur comment on se raconte, tu vois, le mythe, c'est la terre sur laquelle va pousser une forêt de contes.
C'est beau, cette image, c'est très très beau.
Ouais, de là, si tu regardes un peu comment ça marche dans la nature, selon la terre que t'as pas la même forêt qui pousse. Donc, il y a les mythes de la Grèce préarchaïque, il y a les mythes celtiques. Les mythes celtes, c'est très très dur, on n'a pas de version écrite.
Ah bon ?
On a des contes, on a des littératures médiévales, où transparaissent la mémoire des mythes celtes.
D'accord.
On a Merlin, on est en plein domaine mythologique, mais ce qu'on en a, c'est des écrits qui sont déjà romancés.
D'accord. Bon.
Et les mythes celtes, bon, ça crée une pensée. Par contre, on a une forêt de contes, mm-hmm, qui vient de cette mythologie-là. Ce qui peut amener une question rigolote aujourd'hui, quels sont les mythes sur lesquels repose notre société ?
Merci, je voulais en venir ici, justement.
Par exemple. Bon, après, ça, c'est à chacun de réfléchir, hein. Mais quand tu vois justement cette peur du chômage qui règne et qui organise tout le marché du travail en France, c'est une histoire qu'on raconte qui, par contre, crée la réalité du marché du travail. Enlève la peur du chômage et on se retrouve à nouveau à avoir des salaires qui montent, parce que jusqu'en 1983-84, les salaires ne faisaient que monter. On gagnait plus en travaillant moins. On gagnait de la sécu, on gagnait de la retraite, on gagnait tout ça. Tous ces acquis sociaux qu'on est en train de perdre depuis 20-25 ans.
Moi, si je peux me permettre de tenter une petite réponse à ta question. Moi, l'intuition qui me vient sur aujourd'hui, quels sont nos mythes, quels sont les mythes qui gouvernent nos sociétés, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, justement, moi, j'ai l'impression de constater que la société est assez perdue parce que, justement, elle manque de mythes. Que justement, il n'y a pas beaucoup de mythes qui... On ne sait plus où sont nos fondations. Du coup, on a peur du chômage, on a peur de ci, on a peur de ça, on écoute les médias, etc. Mais ce que je constate, c'est que les mythes, on les a trouvés aussi beaucoup dans la religion. Au Moyen-Âge, ce qui faisait qu'on était prêt à sacrifier sa vie, c'était surtout la religion qui nous transmettait les mythes de paradis, d'enfer, etc. Aujourd'hui, on s'est en partie émancipé de la religion, pas pour tout le monde, mais en grande partie. Et où sont les mythes qui nous expliquent qu'est-ce qu'on fait là, quel est le sens de la vie humaine? J'ai l'impression qu'on les a beaucoup perdus, et que c'est pour ça que ça a fait de la place au consumérisme, et que ça a fait de la place pour les croyances qui sont véhiculées par les médias, etc. Et j'ai l'impression de voir beaucoup de gens qui sont un peu comme des petits navires sans cap.
Moi, je crois qu'il y a des mythes contemporains. C'est-à-dire que des choses qui sont...
Des mythos contemporains,
Zeus,
oui. Mais...
Comme Zeus au sommet de l'Olympe, quelque chose de non rationnel, mm-hmm. de non raisonné, de non rationnel, mm-hmm. mais qui est perçu par l'ensemble de la population comme une vérité objective qu'on ne peut pas remettre en question, qu'on ne va pas penser. Mm-hmm. Et par une partie de la population, en tout cas une grande partie. Et c'est là, je dis, pour moi, la peur du chômage est l'un des mythes contemporains. Et avoir créé la peur du chômage, avoir peur du chômage, alors que les chiffres montrent qu'il n'y a pas de problème de non-travail en France, la France n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui.
Oui,
cette
mais c'est
pas peur du chômage
pareil.
Crée une réalité.
Mais t'es d'accord qu'ils nous en pondent des chiffres du chômage. Ils nous en pondent et ils nous en parlent, hein, des chiffres du chômage.
C'est bien ce que je suis en train de dire.
Oui, mais toi, t'as l'air de dire que les chiffres prouvent le contraire.
Oui, parce qu'ils nous pondent des chiffres du chômage depuis 10 ans. On a tant de proportions de chômeurs, après on traficote sur Pôle emploi, etc. Après, tu regardes la proportion de non-travaillants dans la population adulte entre aujourd'hui et 1960, il y en a moins. Aujourd'hui.
Ça m'étonne pas parce qu'en 1960, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent.
Après, il y a une autre réalité à mettre en parallèle, c'est qu'à l'époque, 70% de la richesse produite allait au travail. Donc, salaire,
ça, c'est très important.
Cotisation sociale, sécu, retraite, etc. Et 30% allait au capital et aux actionnaires. Alors aujourd'hui, je connais pas le chiffre, je pense que c'est à peu près pile l'inverse.
Voire pire.
Voilà. Donc, si on regarde au niveau économique, il n'y a pas de problème de chômage en France, il y a un problème de partage. À l'époque, un salaire nourrissait toute une famille. Aujourd'hui, tu as les deux parents qui bossent.
Et on galère encore.
Ils galèrent. À côté de ça, il n'y a jamais eu autant de nouveaux millionnaires qu'en 2013. Donc, pour moi, on est dans du mythe. La notion de chômage, c'est un mythe contemporain.
Alors, la valeur travail, je ne vous en parle pas.
Une histoire,
c'est carrément du mythe.
Une histoire qu'on se raconte, mais qui influe, qui crée la réalité quotidienne. Il y a d'autres histoires qu'on se raconte et qu'on a du mal à remettre en question qui créent réalité quotidienne. C'est par exemple la croissance. C'est quoi la croissance? C'est produire plus. Ah, mais partant du principe qu'on a déjà tout ce qu'il faut et trop, comment on fait pour produire plus?
Et ben, pourquoi
on arrive à un moment où cette nécessité de croissance fait quand même, ça c'est très très balèze. Il y a des gens qui consacrent du temps, de leur travail, du génie humain, des temps de leur génie humain à faire en sorte que la voiture que j'achète, au lieu de pouvoir tenir 50 ans, parce qu'on sait faire ça, il y a 50 ans, on faisait des camions par exemple, t'en as qui roulent encore, et bien faire en sorte qu'elle meure au bout de 5 ans. On passe du temps,
à
on
payer
dépense
des gens.
Du cerveau, tu vois, on dépense du cerveau humain, du temps de mon génie à faire en sorte que le produit de mon travail ne fonctionne pas.
Il est foutu.
Pour qu'on puisse en vendre une autre. Brusquement, si on faisait juste ce qu'on sait faire, à création de richesses égales, parce que la richesse, ce n'est pas des bouts de papier qui s'échangent, c'est fait d'avoir une bagnole. À création de richesses égales, juste en savant ce qu'on sait déjà faire, hein, sans faire d'efforts. Ben, brusquement, entre 5 ans que ça dure aujourd'hui une bagnole, ou 50 ans, on sait les faire, ben, ça veut dire que j'ai besoin de 10 fois moins de matières premières, 10 fois moins de pollution, 10 fois moins de temps à l'usine, je peux passer 10 fois plus de temps avec mes gosses ou avec un bouquin à la maison. Mais pourquoi on ne fait pas? Au lieu de bosser 35 heures, je pourrais bosser 3h50 quoi, par semaine. Je crée autant de richesses.
Tout à fait.
Mais il y a ce mythe de la croissance. S'il n'y a pas de croissance, c'est la catastrophe.
Le temps passant comme s'écoule l'eau du fleuve, Martin se vit bientôt barbes et cheveux lui pousser. L'eau du fleuve s'écoulant comme temps qui passe, Martin se vit bientôt barbes et cheveux lui blanchir, jusqu'à ce qu'il atteigne cette réputation de grand sage. C'est vrai, de toutes ces vallées alentour, qu'en peine étreignait notre cœur malade, c'est vers Martin que l'on cherchait consolation. Quand question nous turlupinait, c'est vers Martin que l'on quêtait la réponse. D'ailleurs, un jour, un jeune enfant du village, vous savez, ces petits villages où tous les échanges se font par le troc, un jeune enfant du village s'en vint trouver de Martin. Une question lui brûlait les lèvres. « Martin, Martin, faut que tu m'expliques, hein, parce que moi, j'y comprends rien. C'est vrai, quoi, j'arrête pas d'en entendre parler et j'en ai jamais vu. Dis, Martin, c'est quoi, l'argent ?» Ah, bonne question. Martin réfléchit un moment en jouant longuement avec sa barbe, puis amena l'enfant devant une des fenêtres de la maison. « Dis-moi, petit gars, qu'est-ce que tu vois ?»« Ben, Martin, je vois le village avec la fontaine en son centre, les enfants qui jouent autour. Je vois les collines couvertes de châtaigniers qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Je vois même la Glaude en train de rentrer son troupeau de chèvres. Ça doit être l'heure de la retraite, hein ?»« Bien. » Martin leva l'enfant de devant la fenêtre, puis se dirigea vers son lourd coffre en chêne, là où il rangeait ses plus précieux trésors. Il en sortit un petit pinceau et une bourse, pleine de poudre d'argent. À l'aide du pinceau, il recouvrit la surface de la fenêtre d'une fine pellicule d'argent, la transformant ainsi en miroir. Puis il amena l'enfant devant cette fenêtre devenue miroir, et à nouveau lui demande « Et là, qu'est-ce que tu vois ?»« Ben, Martin, je me vois moi. » Eh, c'est ça, petit gars, t'as tout compris. L'argent, c'est quelque chose que quand tu en as, tu ne vois plus que toi-même.
C'était un autre extrait de l'album Martin qui cause sur Radio 16, compté par Éric Derrien. Éric est notre invité aujourd'hui dans Les Enfants du Nouveau Monde. Nous parlions à l'instant des mythes modernes, ceux qui se font passer pour des réalités dans notre société capitaliste et que l'on remet trop rarement en cause.
Il y a le mythe du développement. Ça aussi, c'est un super mythe contemporain. Mmh. C'est le développement. Ça va avec la croissance. Hein.
Tout à fait, ouais.
Mais côté développement, le mot est vachement sympa. Parce que quand on a la population qui commence à se faire du souci par rapport à l'environnement, par rapport à cette terre qu'on habite et qu'on abîme quand même allègrement, on a commencé à une certaine époque à entendre parler de décroissance. Mm-hmm. Très, 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 très vite. Très, 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 très vite. Est arrivé le mot développement durable.
Ouais.
Waouh! Il faut savoir un truc, hein. C'est que dans la plupart des régions, des conseils généraux, etc., arrivait la période où si tu voulais ta subvention, fallait intégrer la notion de développement durable.
Développement là, ils ont trouvé durable. La parade.
Comme ça, cette inquiétude par rapport à l'environnement, à la planète.
Hop là, c'est réglé.
On remplit la petite case inquiète. Ça évite que le mot décroissance ne s'installe. Et ce développement durable, mais c'est génial parce que j'ai le même pétrolier qui navigue sur les mers.
Mais il est écolo.
Il est écolo, la radio est alimentée par un panneau solaire.
C'est fabuleux.
Wow.
Ce qu'on appelle le greenwashing, on l'a repeint en vert. Regardez comme il est beau, il est tout propre.
Et ça c'est du mythe, c'est du mythos.
Ça c'est du mythos.
Comment on vit. Donc pour moi la question c'est pas forcément, il n'y a plus de mythe aujourd'hui. Mm-hmm. La question
mais
c'est...
Mais quel mythe.
Quel mythe. Est-ce que... On va se raconter ces mythes, on va choisir pour demain.
Est-ce qu'ils nous font du bien ceux-là ou est-ce qu'ils nous font pas du bien ?
Voilà.
On vous laisse y réfléchir. Merci en tout cas Éric Derrien pour cette conversation, c'était fort intéressant. On va citer ton site internet pour ceux qui ont envie d'aller y faire un tour. Donc vous mettez dans votre moteur de recherche habituel Éric Derrien, D-E-2-R-I-E-N. Compteur. Et ensuite, vous arrivez en première ligne, vous avez le site d'Éric. Merci, merci beaucoup.
Merci à toi. My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde le premier dimanche du mois à 19h sur Radio 16 99.2.
Scenes of rape in the Arroyo.